Radio Kapi.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce journal. À la une de l'actualité, au Nord Kivu, la situation humanitaire jugée catastrophique par la commissaire européenne à l'aide humanitaire, Hadja Labib. Au terme d'échanges ce vendredi à Goma avec la coordination de l'AFC M23, la question de la réouverture de l'aéroport de Goma au cœur des discussions. Gratuité de la maternité et assainissement du fichier de la paix des fonctionnaires. La réunion du Conseil des ministres de ce vendredi mise sur le social et la rigueur budgétaire pour stabiliser les finances publiques. En Ituri, malgré un calme relatif, les parlementaires appellent à l'unité pour sortir du cycle des violences. Les propositions concrètes au centre de notre entretien avec Pichu Iribi Modima, président du caucus des élus de la province qui est l'invité de ce journal. Ce journal part du Nord Kivu où la situation humanitaire dans les zones sous occupation de l'AFC M23 et la question de la réouverture de l'aéroport de Goma ont dominé les échanges tenus ce vendredi entre la commissaire européenne à la gestion des crises et à l'aide humanitaire, Hadja Labib, et la coordination politique de l'AFC M23. La responsable européenne a clôturé dans la ville de Goma une tournée de 6 jours dans la région des Grands Lacs. À sa sortie d'entretien devant la presse, la mandataire des ministres des Affaires étrangères des 27 pays de l'Union européenne a décrit la situation humanitaire comme catastrophique. Elle plaide pour une amélioration urgente. On l'écoute.
Je me suis rendue à Kinshasa, ensuite à Bujumbura, puis à Kigali et maintenant à Goma avec le même message, un plaidoyer en faveur du respect du droit international humanitaire. La situation est catastrophique. Nous devenons le premier acteur global humanitaire, particulièrement ici, dans la région des Grands Lacs. Mais il faut nous aider à faire notre travail. Et nous avons de plus en plus des violations flagrantes du droit international humanitaire. J'ai fait part de toutes sortes de tracasseries, de problèmes. Et je me fais le relais ici des ONG internationales, des agences des Nations Unies qui travaillent difficilement ici. Je me suis moi-même rendue dans les camps de transit. J'ai moi-même recueilli les témoignages. Je suis aussi commissaire à l'égalité. Les premières victimes de cette guerre, ce sont avant tout des femmes et des enfants. J'ai obtenu des engagements concrets de toutes les parties que j'ai rencontrées et j'espère que ces engagements seront mis en œuvre et que cette mission portera ses fruits.
Accompagné de Johan Borgstam, représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, Hadja Labib a entamé sa tournée le 16 février à Kinshasa. Elle a ensuite rencontré les autorités du Burundi à Bujumbura, puis celles du Rwanda à Kigali avant de conclure sa mission par Goma. Nord Kivu toujours, la situation sécuritaire demeure particulièrement tendue et volatile ce samedi dans une vaste zone du secteur des Katoï et de la chefferie de Bahoundé, au sud du territoire des Masisi. Depuis 4 jours, la région a été le théâtre d'intenses affrontements qui se sont poursuivis jusqu'à tard dans la soirée de vendredi. Selon plusieurs sources locales, les combattants Wazalendo alliés aux forces armées de la RDC seraient parvenus à repousser les assauts des rebelles de l'AFC M23 et à reprendre plusieurs entités précédemment occupées par ces derniers. Les détails avec vous, Richard Junior Kamunga.
Des témoins sur place rapportent que dès 5h du matin jusqu'aux environs de 18h d'hier vendredi, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans plusieurs villages d'Oufamandou premier dans la chefferie de Bahoundé. D'après ces sources, les combats opposaient une coalition de groupes Maïmaï Lamouka et Raya Mutomboki dirigée par un certain Noah Machano contre les rebelles des AFC M23. À l'issue de ces affrontements, les villages allant de Miruta jusqu'à Mouchebere, en passant par Nkololo, Nyati et Samaria, auraient été pris par les Wazalendo alliés à l'armée congolaise. Parallèlement, d'autres sources dans la région confirment que les miliciens Wazalendo Pareko, dirigé notamment par les dénommés Mutayomba et Kingiki, également alliés au FRDC, ont reconquis d'autres agglomérations. Ce sont entre autres les chefs-lieux du secteur de Katoï ainsi que les villages de Nkonkwe situés dans les groupements voisins de Kibabi, chefferie de Bahoundé. Selon ces sources, leur entrée dans ces entités est intervenue à 10h locales le même vendredi. Depuis plusieurs mois, cette partie du territoire de Masisi est secouée par des affrontements récurrents entre AFC M23 et les milices Wazalendo. C'est là, malgré l'appel au cessez-le-feu lancé récemment par l'Angola et qui devait entrer en vigueur le 18 février dernier.
Par ailleurs, au Kasaï oriental, le tribunal militaire des garnisons de Mbujimayi et Tshilenge a rendu jeudi un verdict lors d'une audience publique en matière de flagrance. 4 policiers ont été condamnés pour des faits graves commis lors d'une patrouille nocturne en janvier dernier. 2 à perpétuité et 2 autres à 20 ans de servitude pénale. Tous renvoyés définitivement de la police nationale congolaise. Des explications avec Esther Ndalafina.
2 d'entre eux, Jonathan Tshibala et Jacob Kalinga, ont écopé de la perpétuité. Ils ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs, meurtre, détention illégale d'armes et munitions de guerre, vol à main armée et destruction méchante. Le tribunal a également prononcé leur dégradation et leur radiation de la police nationale congolaise. Les 2 autres, Mardoché Kabengele et Placide ont été condamnés à 20 ans de servitude pénale pour meurtre, vol à main armée et destruction méchante. Eux aussi sont destitués de la police. En plus des peines privatives de liberté, les 4 condamnés devront verser à la partie civile l'équivalent de 100 000 $ américains en francs congolais. À l'inverse, Alphonse Ilunga a été déclaré non coupable. Sa poursuite a été suspendue et il doit être immédiatement remis en liberté. Rappelons que la nuit du 8 au 9 janvier 2026, ces policiers en patrouille ont fait irruption dans la résidence d'un collègue au quartier Pemkao. Ils ont ouvert le feu, blessant grièvement le propriétaire aux jambes. Sa fillette de 8 ans, atteinte par balle, a succombé à ses blessures. Les assaillants ont ensuite emporté de l'argent et plusieurs biens. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Et puis, dans la Tchopo, la non-réouverture à Kisangani des bureaux du Fonds de réparation d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC inquiète la communauté des bénéficiaires de ces fonds. En dépit de la réhabilitation du comité de gestion en décembre dernier, après quasiment un an de suspension, les membres de cet organe continuent de rester à Kinshasa. C'est ce qui a poussé les victimes des guerres de Kisangani à manifester le 17 février. Dans un communiqué de presse publié ce vendredi, le député national Patrick Matata, élu de Kisangani, attribue cet état des choses à l'immixtion du ministère de la Justice dans la gestion courante de cet établissement public à caractère social. Le point avec Jacques Mukonkole.
Dans ce communiqué, le député Patrick Matata fait savoir que l'article 4 du décret instituant le FRIVAO proclame son indépendance, l'équité et la transparence dans la gestion des fonds reçus de l'Ouganda. En violation de l'article 3 du décret fixant son siège à Kisangani, les organes de gestion du FRIVAO ont déserté leur bureau et se retrouvent à Kinshasa. Face à cette situation, le député Patrick Matata recommande notamment le respect d'indépendance, d'équité et de transparence afin de restaurer la confiance des populations et éviter les dérives administratives. Il exige également l'ouverture des bureaux de FRIVAO à Kisangani et la poursuite du processus d'indemnisation jusqu'à l'épuisement de toutes les victimes identifiées. L'extension des activités de FRIVAO à Buta, Isiro et Bunia est également recommandée. Il en est de même du lancement des indemnisations collectives, spécialement la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de la Tchopo. Rappelons que lors de sa rencontre avec le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, le 19 février dernier, Dismas Kitenge, président du conseil d'administration par intérim, a déclaré que le FRIVAO va reprendre ses activités le 1er mars prochain. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Nous l'avons dit au sommaire, la 79e réunion du Conseil des ministres tenue ce vendredi a été marquée par des décisions importantes visant à la fois le bien-être social et la rigueur budgétaire. Entre le financement de la gratuité de la maternité et l'assainissement du fichier de la paie des fonctionnaires, le gouvernement entend stabiliser les finances publiques. Les détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Les premiers grands axes de cette réunion concernent la santé maternelle et néonatale. Le président de la République a insisté sur l'urgence de sécuriser le financement de la gratuité des accouchements et des soins aux nouveau-nés. Lancé en septembre 2023, ce programme phare de la couverture de santé universelle a déjà permis des millions d'accouchements gratuits. Pour éviter tout arriéré des paiements aux hôpitaux, la première ministre a été chargée de définir des mécanismes de financement pérennes impliquant également des partenaires techniques et financiers. Sur le plan de la gouvernance financière, l'air est à l'assainissement. Le chef de l'État a ordonné un audit exhaustif de l'état liquidatif de la paie des agents publics. Cet audit qui doit durer 30 jours vise à garantir que chaque fois versé corresponde à un service réellement rendu tout en protégeant les droits des fonctionnaires réguliers. Enfin, pour lutter contre les circuits informels et les pertes de recettes, une nouvelle stratégie de captation et de sécurisation des flux d'or est en cours d'élaboration. Le pays attend ainsi mieux contrôler ses devises et renforcer la stabilité macroéconomique face à l'exploitation artisanale souvent mal encadrée.
Merci à vous Blaise Ndongala. À l'occasion du 20e anniversaire de la Constitution du 18 février 2006, un avocat du barreau du Kasaï central lance une pétition en vue de sa révision. Maître Christian Moulamba plaide pour un renforcement de l'organisation de l'État et des provinces, ainsi qu'une modernisation en profondeur du cadre institutionnel. Parmi les propositions phares de cette initiative figure le transfert de la capitale à Matadi, l'instauration d'un quota obligatoire de 30% des jeunes et de 30% de femmes au sein du gouvernement, ainsi que la suppression du Sénat du Parlement congolais. Maître Christian Moulamba détaille les grandes lignes de sa démarche au micro d'André Katendengala Mouloumé.
Premièrement, l'instauration d'un parlement monocaméral. En dehors de ça, l'instauration de l'anglais comme l'une des langues officielles. Je vise un quota de 30% pour les jeunes, 30% des femmes. Ce sont des pourcentages obligatoires. Et aussi, les transferts de la capitale vers Matadi. En dehors de ça, la réintégration du parquet dans le pouvoir judiciaire. Le Tetela sera reconnu comme l'une des langues nationales. Les Tetela ont joué un rôle très important dans ces pays et notre héros national est Tetela. J'ai proposé la création des chambres d'appel au sein de la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle. Le mandat du président de la République, j'ai précisé, lorsque vous lisez la Constitution, vous dit le président est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. On crée une confusion. Lorsqu'on parle du renouvellement en droit, on voit les mandats successifs. Qu'en est-il d'un président, par exemple l'ancien président, qui a laissé le pouvoir? Est-ce qu'il peut revenir en 2028? La Constitution ne l'a pas interdit.
Province du Maniema, le réseau pour la réforme du secteur de sécurité et justice a réuni hier autour d'une table les associations féminines qui militent pour les droits humains. Il était question de partager les idées sur la participation et l'implication des femmes dans la gouvernance sécuritaire et gouvernance locale. À l'issue de cette rencontre, quelques recommandations ont été formulées pour le renforcement des sécurités dans la province. Quelques-unes sont présentées ici par la coordonnatrice de ces réseaux, Sinando Kumwange Annie, dans cet extrait choisi par Florence Kizan.
Pour le renforcement de sécurité dans notre province, nous recommandons d'encourager l'intégration systémique de femmes dans les instances décisionnelles, des gouvernances sécuritaires et locales à tous les niveaux. De renforcer les capacités des femmes leaders et actrices communautaires pour une participation active et qualifiée aux mécanismes de sécurité locale. De promouvoir les politiques de mesures incitatives favorisant la représentation féminine dans les forums des quartiers. Sensibiliser les autorités locales, les forces de sécurité et les communautés sur l'importance de l'approche genre dans la gouvernance sécuritaire. De soutenir les initiatives visant à amplifier la voix de femmes dans les espaces de concertation et de prise de décision sécuritaire. De promouvoir et soutenir la participation significative des femmes au processus de paix au niveau local et à la mise en œuvre des accords de paix.
Cette autre nouvelle, le réseau national des professeurs et enseignants des Français RENAPEF encourage les jeunes à maîtriser une ou plusieurs langues afin de faciliter leur intégration et leur épanouissement dans les différentes communautés. Le président de cette structure lance cet appel en marge de la Journée internationale de la langue maternelle célébrée le 21 février de chaque année. Jean Bosco Pouna rappelle aux parents l'impérieuse nécessité de bien opérer le choix de la première langue à transmettre à l'enfant dès son bas âge. Suivez ses propos au téléphone de Blaise Ndongala Mayanda.
Pour le cas de la RDC par exemple, qui compte 4 langues véhiculaires, à savoir le Lingala, le Kikongo, le Chiluba, le Swahili et plusieurs langues vernaculaires, sans oublier le français comme langue officielle, l'enjeu est donc de taille. La maîtrise de 2, 3 ou plusieurs langues est un atout pour les jeunes afin de garantir leur avenir car les sociétés multilingues existent à travers leurs langues. Les RENAPEF donc profitent de cette commémoration internationale pour rappeler aux parents l'impérieuse nécessité de bien opérer le choix de la première langue à transmettre à l'enfant dès sa petite enfance. Si c'est le français ou autre langue, les parents et l'environnement familial doivent maîtriser les aspects phonétiques et morphosyntaxiques pour que l'enfant qui apprend par imitation acquiert une langue vertueuse, une langue socialement approuvée par notre communauté.
En marge de cette journée, le RENAPEF organise une conférence scientifique et culturelle sous le thème « La voix de la jeunesse sur l'éducation multilingue ».
Actualité internationale.
Frontière maritime entre le Ghana et le Togo. Accra décide d'avoir recours à un arbitrage international. Invoquant 8 années de négociations en vain, le Ghana a annoncé ce vendredi mettre fin au pourparlers qu'il menait avec Lomé pour tenter de résoudre le litige qui oppose les deux pays sur le tracé de la frontière séparant leurs eaux territoriales. Accra a décidé donc de porter l'affaire devant le tribunal international du droit de la mer.
L'invité.
Alors que la province de l'Ituri connaît une accalmie, mais reste confrontée à des poches d'insécurité, les parlementaires appellent à l'unité et à la mobilisation. Ces derniers ont clôturé hier vendredi 3 jours de consultations avec différentes couches des sociétés dans le cadre de leurs vacances parlementaires. Quelles solutions concrètes proposent-ils pour sortir de ces cycles de violence? Nous en parlons avec Pichu Iribi Mbodima, président du caucus des parlementaires de l'Ituri. Il s'entretient avec Jean-Claude Loki Dile.
Pichu Iribi, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de clôturer votre consultation que vous avez entamée avec différentes couches de population. Que retenir de vos échanges?
Qu'est-ce que nous retenons? Cette session de caucus de parlementaires s'est déroulée sous le signe de l'espoir. Il y a une accalmie générale qui est observée, qui est le fruit des efforts divers du pouvoir central, aussi du gouvernement provincial, dirigé de main de maître par le gouverneur militaire, évidemment la population aussi, effectivement, qui a accepté d'intégrer finalement cette notion de la paix. Pour nous, il était question de féliciter aussi tous ceux qui sont en train de faire ce travail-là pour qu'on en soit arrivé là.
Donc vous avez salué les avancées, notamment en termes de fréquence. Tension entre les communautés, vous avez spécifiquement signalé entre les EMA et les LIN notamment, donc il y a quand même une amélioration dans ce secteur, mais quand même il y a aussi des poches de résistance. Vous avez évoqué le cas de Boulé, mais aussi le Sud Irumu et Mambasa.
Oui. À l'issue des vacances précédentes, nous avions avec les deux communautés créé un groupe qu'on appelle groupe d'interaction intercommunautaire EMA-Lindu pour la pacification et la paix. Ce groupe a abattu un travail remarquable, avec peu de moyens d'ailleurs, mais il faut saluer ici le soutien du gouverneur à leurs activités. Il est question de promouvoir la pacification, de promouvoir la cohésion sociale. Aujourd'hui, tout ce qui se passe en Ituri, on ne peut pas oublier le travail qui est en train d'abattre ces groupes avec toutes les deux communautés. Le fait qu'ils se mettent ensemble, c'était le témoignage d'une détermination, de leur bonne volonté à travailler pour la paix. Et nous continuons à les encourager pour ça.
Quelle recommandation comptez-vous porter au Parlement par rapport à tout ce que vous avez entendu comme problème, comme doléance, comme préoccupation? Souvent, on vous reproche, du moins aux parlementaires, vous venez comme ça, vous recueillez toutes les doléances et puis après, il n'y a rien qui s'en suit.
Oui, bien sûr, nous prenons ça de bon cœur, toutes ces remarques, mais il faut retenir que les députés ne gèrent pas le pays. Celui qui gère le pays, c'est le gouvernement. Et souvent, même quand nous déposons nos recommandations pour réagir, soit ça fait un bon boom de temps qu'on ne le fait pas, ou encore carrément, on les classe dans les annales. Nous avons formulé des recommandations. D'abord, par rapport à la sécurité, nous avons demandé qu'on puisse renforcer les FARDC pour juguler la crise en Djougou. Nous avons formulé une autre recommandation par rapport à l'organisation du forum. Comme vous savez, il y a eu une première délégation qui est arrivée. Ici, ils ont travaillé sur le projet. Le projet a été ramené à Kinshasa. On a déjà adopté cela. Nous attendons d'un moment à l'autre que ce forum qui va réunir les filles et fils de l'Ituri soit organisé. Il faut saluer l'essor économique. Comme vous voyez aujourd'hui, les opérateurs économiques sont en train d'abattre un travail de titans ici. Bounia se modernise du jour au jour grâce aux entreprises locales. Les opérateurs économiques du millier, ils mettent du paquet pour un investir dans la construction de routes. Et dernièrement, c'était même une très bonne nouvelle pour nous quand nous avons suivi la signature de l'accord PPP avec la société Good News.
PPP pour dire
Oui, partenariat public-privé. Nous avons salué cet accord, ces contrats. Nous attendons, comme nous leur avons dit hier, nous attendons qu'ils puissent nous fournir un travail de qualité. D'autres recommandations, ce sont des recommandations aussi d'ordre humanitaire. Comme vous savez, il y a encore des déplacés dans les sites des déplacés. Comme il y a déjà une accalmie, il faut faire en sorte de réunir des conditions idoines, des conditions idéales pour permettre à cette population qui passe de mauvais moments dans les sites de faire quoi ? De rentrer dans leur milieu d'origine.
Et vous avez terminé vos propos d'une vingtaine de minutes avec un message d'espoir, Irébi Pichou.
Oui.
Vous avez dit peut-être que le bout du tunnel est peut-être proche.
Oui. C'est d'abord une mobilisation générale autour de l'idéal de la paix. Le bout du tunnel est proche parce que les tours viennent de loin. Où nous en sommes arrivés aujourd'hui, si nous regardons en arrière, vous allez vous dire qu'il y a un travail qui a été fait. C'est une œuvre humaine, il ne manque pas de problèmes, certes, mais l'étape franchie, elle est encouragée. Et c'est le fruit des efforts de tous. Le message vis-à-vis de la population, c'était de bannir des discours de haine, des pratiques à opposer les uns contre les autres, à construire les havres de paix que l'Itour a toujours été.
Pichou, Irébi Modina, je vous dis merci.
Merci.
Ainsi prend fin ce journal, mis en onde par Dieudonné Nyangasa, coordonné par Richard Junior Kamunga et Jude Mister Bilanda. À la présentation, grâce à Mzati Masanzi. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.